Très belle journée à l'écoute d'Europe 1. Dans un instant, le journal de la mi-journée avec François Claus. Et puis ne manquez pas, après les infos de 13h, La France bouge avec Elisabeth Assayag, avec le coach, la rédaction d'Europe 1 et ses invités. Aujourd'hui, gros plan sur les écoles alternatives pour nos enfants. Là aussi, dans ce secteur, on innove, made in France, avec, vous le verrez, des idées toutes plus ingénieuses les unes que les autres. Et vous pourrez réagir à cette émission, poser toutes vos questions, venir nous rejoindre, n'hésitez pas, à partir de 13h sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il est midi et demi, le journal de la mi-journée. François Claus, bonjour François.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes, bonjour à tous.
La reprise de la circulation virale se fait encore à bas bruit, mais elle se fait de façon significative. Et c'est par cet effort collectif sur les masques, les mesures d'hygiène et la distanciation physique qu'on refera tomber les indicateurs au niveau de base.
Le message de l'épidémiologiste Bruno Lina, reçu 100% par le Premier ministre Jean Castex, qui ordonne le port obligatoire du masque dans les lieux publics dès la semaine prochaine. En Mayenne, où le seuil d'alerte vient tout juste d'être dépassé, le masque est obligatoire dès aujourd'hui dans 6 communes dont Laval. Nous serons avec le correspondant d'Europe 1, François Coulon, dans un instant. Nous partirons en Espagne, où une cérémonie d'hommage aux 28 000 victimes de l'épidémie se déroulait ce matin, à un moment où plusieurs pays ou régions d'Europe se préparent à des mesures de reconfinement. L'actualité de ce jeudi 16 juillet, c'est aussi un ministre qui se défend et contre-attaque.
Je fais l'objet d'une calomnie. Je ne souhaite à personne d'être accusé à tort. Dans cette chasse à l'homme, il y a une grande injustice.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui réagissait à la relance de la procédure judiciaire après les accusations de viol qu'il réfute, était ce matin sur Europe 1. Nous l'entendrons. Bâtiments relancés, fonctionnaires départementaux embauchés et vélos développés.
Ici, une piste cyclable qui s'arrête et on voit notre piste cyclable qui recommence la voie au bout, dans 200 mètres. Le but, c'est vraiment de liaisonner les pistes cyclables les unes aux autres pour avoir un ensemble cohérent.
Voilà comment vont s'appliquer sur le terrain les mesures Castex annoncées hier. Vous aurez toutes les réponses dans le journal. 5 changements au lieu de 3 dans le foot. Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, beaucoup de choses, nous dira Simon Roubin tout à l'heure, sans oublier la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour François.
Très nuageux cet après-midi.
Oui, effectivement, nous avons une couverture nuageuse qui est au-dessus de la France, pratiquement toute la France. Elle est assez épaisse par endroits, cette couverture. Il fait gris, sauf au bord de la Méditerranée. Les températures sont en baisse. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Eh bien, rendez-vous est pris pour 12h58. Vous avez le sommaire. Place à l'actualité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il y eut le week-end dernier l'appel remarqué de 14 médecins, relayé en grande partie mardi par Emmanuel Macron lui-même lors de son intervention à l'Élysée, qui ouvrait la porte à un port obligatoire du masque au mois d'août. Eh bien, Jean Castex, ce matin, devant les sénateurs, estime qu'il faut aller plus vite et mieux protéger la population dès la semaine prochaine.
Le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits barrières, une mesure de prévention et de protection efficace. J'ai donc proposé que l'obligation de le porter soit renforcée dans tous les établissements recevant du public clos, en particulier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les commerces. Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août, parce qu'encore une fois, nous agissons dans une logique préventive et pas sous l'empire de l'urgence. J'ai entendu et compris que cette échéance apparaissait tardive ou suscitait quelques interrogations. Le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine.
Dès la semaine prochaine, c'est ainsi que Jean Castex s'exprimait devant les sénateurs ce matin et devant Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1. Nous allons prendre la direction de la Mayenne, où le port du masque a été rendu, lui, obligatoire dans les lieux publics dès aujourd'hui, dans 6 communes, dont la préfecture Laval. Bonjour François Coulon.
Bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans l'ouest de la France, le préfet François a tranché, il y avait une forme d'urgence.
Effectivement. Alors donc à Laval, L'Huisserie, Saint-Berthevin, Bonchamp-lès-Laval, Changé et Louverney, dans ces 6 communes, le port du masque est dès à présent obligatoire dans les lieux publics fermés. Et si cette mesure a été prise en urgence ce matin par le préfet, c'est que la Mayenne, comme vous l'avez dit, a dépassé hier un seuil d'alerte, comme l'a précisé au cours d'une conférence de presse le directeur de l'ARS des Pays de la Loire, Jean-Jacques Coiplet.
Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives rapportées à la population générale, est très légèrement au-dessus de 50 pour 100 000, place le département de la Mayenne en vulnérabilité élevée. Ça veut dire que cela nécessite une action et une vigilance accrue. Nous savons qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, si celle-ci n'était pas maîtrisée, alors nous pourrions être, comme dans d'autres territoires, confrontés à ces difficultés.
Alors, le directeur de l'ARS évoque la Guyane et Mayotte. Le niveau de gravité ici n'est pour l'instant pas comparable. Mais la Mayenne est, il faut le dire, le seul département métropolitain à être classé en vulnérabilité élevée, même si on ne recense que 2 personnes en réanimation et 7 patients hospitalisés pour cause de Covid-19. 382 cas positifs ont été confirmés. En 3 jours, 3700 tests ont été réalisés, ce qui est considérable sur la base du volontariat. Et l'objectif est une accélération pour isoler au plus vite les personnes atteintes et pour casser les chaînes de propagation du virus. Actuellement, 4 centres de dépistage sont mis à contribution. On peut s'y présenter sans ordonnance et sans rendez-vous. Très prochainement, 2 nouveaux sites vont être ouverts. Voilà, d'un côté, le port du masque systématique en lieu clos dans 6 communes et de l'autre, un dépistage de plus en plus massif. Ce sont les 2 leviers actionnés simultanément par les autorités de santé en Mayenne.
En Mayenne et vraisemblablement dans le reste du pays lorsque les signaux d'alerte seront au rouge. Car il est clair qu'au-delà de la Mayenne, merci François Coulon, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, il est clair que les autorités scientifiques s'inquiètent aujourd'hui du relâchement des comportements cet été qui génère bien sûr une accélération du virus. C'est ce que confirmait ce matin l'épidémiologiste lyonnais, membre du conseil scientifique Bruno Lina à Yasmina Katou.
En fait, ce que l'on observe, c'est qu'il y a dans plusieurs régions de France un certain nombre de signaux qui sont des signaux qui ne sont pas très rassurants, qui semblent nous indiquer que la reprise de la circulation virale se fait de façon significative. Et les mesures qui vont nous permettre de contrôler la diffusion des virus, c'est clairement l'association du port du masque, notamment dans des espaces clos, parce qu'on sait que c'est là que se fait l'essentiel de la transmission actuellement, l'utilisation abondante de nouveau des solutions hydroalcooliques et du lavage de mains, et la remise en place d'une certaine distanciation physique entre les personnes, notamment à l'intérieur. Si on arrive à accumuler de nouveau ce triptyque de comportement de la population française, on va pouvoir freiner cette recirculation et donc retrouver le niveau de base qui était celui qu'on avait à la fin du mois de juin.
L'épidémiologiste Bruno Lina qui était interrogé par Yasmina Katou. Et c'est dans ce contexte, au moment où certains pays d'Europe se préparent à un possible reconfinement, c'est le cas en Allemagne, où l'autorité fédérale autorise des mesures de confinement renforcées dans certaines régions, c'est le cas dans certaines régions du Portugal, c'est donc dans ce contexte que l'Espagne, l'un des pays les plus meurtris d'Europe par la pandémie, rendait hommage ce matin à Madrid à ses 28 000 victimes du virus, en présence de la commissaire européenne Ursula von der Leyen, Henri de la Guérie.
Oui, une cérémonie sobre et digne sous un grand soleil devant le palais royal de Madrid et une cérémonie émouvante lorsque le roi Felipe VI, le Premier ministre Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen donc et d'autres personnalités déposent des roses blanches autour d'une flamme en hommage aux victimes. Autre moment fort de la matinée, le discours d'Aroa López, infirmière à l'hôpital du Vall d'Hebron de Barcelone.
Ça a été très dur. Nous avons vécu des situations qui nous ont blessé l'âme et nous avons dû réprimer nos larmes lorsque quelqu'un nous disait « Ne me laisse pas mourir seule ». Nous avons compris une nouvelle fois, sans doute plus que jamais, pourquoi nous avons choisi cette profession, soigner et sauver des vies.
Le masque noir est de rigueur pour tout le monde, les chaises sont espacées. Alors que vous l'avez dit, l'épidémie rebondit en Espagne. La situation est inquiétante en Catalogne notamment et à Barcelone. Dans son discours, le roi lui a appelé à l'unité du pays, mais l'extrême droite, troisième force du pays, a boycotté cet hommage. Nous n'oublierons jamais les victimes, vous n'êtes pas seul face à votre douleur, a-t-il ajouté. La cérémonie s'est terminée par des mots en plusieurs langues, dont le français.
C'est une journée que nous n'oublierons jamais. Notre mémoire et notre gratitude éternelle. Merci.
Un reportage signé Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne.
Il est 12h38.
Dans un instant, il dénonce une chasse à l'homme et un complot politique. Gérald Darmanin était ce matin sur Europe 1. Nous l'entendrons. A tout de suite.
Il est 12h40 sur Europe 1, la suite du journal. François Claus.
Un ministre de l'Intérieur qui se défend et qui contre-attaque. Gérald Darmanin avait reçu le soutien appuyé du président de la République mardi. Lui qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur au moment où la procédure judiciaire pour des accusations de viol qu'il réfute est relancée. Ce matin, au micro de Pierre de Villeneuve, il dénonçait ce qu'il appelle une forme de chasse à l'homme à connotation très politique.
Je fais l'objet d'une calomnie, monsieur. Je ne souhaite à personne d'être accusé à tort. Et je ne souhaite même pas à mon pire ennemi d'être victime de la chasse à l'homme à laquelle je suis aujourd'hui.
Chasse à l'homme.
Oui, je suis l'objet. Vous savez, ça fait depuis 3 ans qu'il y a eu 3 décisions de justice qui ont conclu à une absence totale d'infraction. Et aujourd'hui, pour des raisons politiques, je vois Madame Dati, je vois Madame Pécresse, pour des raisons politiques désormais, on cherche à affaiblir, et après tout peut-être est-ce le jeu politique et le jeu médiatique, on cherche à affaiblir le gouvernement du président de la République. Mais moi je remercie le président de la République et le Premier ministre, la majorité parlementaire, et y compris des personnalités de l'opposition, pour voir qu'effectivement, dans cette chasse à l'homme, il y a une grande injustice. Alors moi je suis n'importe quel citoyen, peut-être encore plus citoyen que les autres, et je répondrai à toutes les convocations de tous les juges et de tous les procureurs s'il le faut, il y a strictement aucun problème. Mais je me demande de temps en temps, effectivement, si on se rend compte de ce qu'on fait de l'honneur de quelqu'un.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin sur Europe 1, qui répondait aux questions de Pierre de Villeneuve. Un troisième policier mis en examen dans l'enquête sur la mort de ce jeune livreur, Cédric Chouviat, décédé à la suite d'un contrôle routier. Ce troisième policier, comme ses deux collègues, a été mis en examen pour homicide involontaire. C'est l'un des secteurs qui a été le plus impacté par la crise sanitaire et c'est l'un des secteurs qui incarnera peut-être demain ce que Jean Castex appelait hier la croissance verte, l'industrie automobile, made in France. Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour François.
Alors on connaissait Aurélien les chiffres du mois de juin, pays par pays, où l'on constatait que la France faisait figure d'exception avec une légère reprise sur un an. Les chiffres européens, Aurélien, confirment aujourd'hui cette tendance.
Oui, et le marché a chuté de 22% sur un an, c'est donc bien mieux qu'en mai, -52%, et c'est surtout mieux grâce au marché français, seul pays en hausse. Très légère, certes, plus 1,2% et avec 2 jours ouvrés supplémentaires par rapport à juin 2019. Mais tout de même, la reprise est nette comparée à l'Allemagne, -32%, ou à l'Espagne, -36%. C'est clairement l'effet prime à la conversion et bonus écologique, a souligné l'Association des constructeurs européens d'automobiles. En France, en juin, 1 véhicule immatriculé sur 5 était hybride ou électrique. C'était à peine 1 sur 10 il y a un an, une tendance qui devrait se poursuivre à la rentrée, selon François Roudier, porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français.
Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'en France, on est monté très vite. On va voir sur septembre-octobre, mais d'après les commandes qui sont passées et donc qui devraient être immatriculées à la rentrée, c'est pas mauvais du tout. Donc c'est même un petit peu au-dessus des prévisions des constructeurs par rapport au mix produit entre véhicules thermiques et véhicules électriques.
Côté constructeur, le groupe PSA a été plombé par les mauvais résultats d'Opel et chute de 28%. Renault a mieux résisté, seulement 15% de baisse et des succès pour les modèles Clio et Captur. Et puis, autre point très encourageant et crucial pour le secteur automobile, le marché de l'occasion se porte très bien, là aussi, surtout en France, avec des transactions en hausse de 25% sur un an, notamment pour des occasions récentes et donc plus propres.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Il est 12h44 à la suite du journal. François Claus.
Nous allons maintenant revenir sur les annonces du Premier ministre hier et essayer de mesurer comment concrètement la relance version Castex peut s'appliquer sur notre territoire. À commencer par cette enveloppe de 7 milliards d'euros parmi les 20 milliards dédiés à la transition écologique consacrée spécifiquement à la rénovation thermique de nos bâtiments. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour François.
Le bâtiment, comme l'automobile, était l'un des secteurs les plus impactés par la crise. Et comme l'automobile, on voit là clairement une opportunité pour se relancer.
Et oui, car si l'activité a presque complètement repris depuis la fin du confinement, elle a repris au ralenti. Cette année, elle devrait chuter de près de 20%. Autant dire que le secteur a bien l'intention de mettre les bouchées doubles, notamment en prenant le virage écologique. L'enveloppe prévue par le gouvernement pour la rénovation thermique va permettre de conquérir de nouveaux marchés. Public d'abord, la priorité étant donnée aux écoles et aux EHPAD. Privé ensuite, grâce à un soutien aux ménages dont on ne connaît pas encore les contours. En tout cas, le secteur se tient prêt, boosté par l'annonce de ce plan de relance qui comprend aussi un volet sur la formation et l'emploi des jeunes. Capital, selon Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment.
Nos centres de formation sont prêts, nos formations spécifiques sont prêtes et nous sommes en plein boom aujourd'hui. Donc justement, avec la réforme de l'apprentissage qui a eu lieu, on a l'impression que enfin le gouvernement a compris que c'est par la formation que l'on va vraiment ouvrir les métiers du bâtiment. Et je vous le dis, les métiers du bâtiment sont capables d'embaucher et de contractualiser 20 à 30 000 apprentis de plus par an. Et c'est très important.
Voilà, très important aussi pour l'attractivité du secteur qui attire chaque année 60 000 jeunes.
Alors voilà pour ce qui est du bâtiment. Deuxième, merci Élise Dangean. Deuxième annonce très forte de Jean Castex hier. Il a évoqué même une forme de révolution, faire des départements la pierre angulaire de la création d'emplois dans notre pays, en annonçant que toutes les créations de postes de fonctionnaires décidées par l'État, fonctionnaires nationaux donc, seraient affectées aux départements. Qu'en pensent les syndicats? Eh bien, chiche, a répondu Christian Grolier, le leader de la très puissante force ouvrière fonction publique, lorsqu'Olivier Samain l'a interrogé.
C'est pas forcément une mauvaise idée en soi, puisque depuis une bonne décennie, on déshabille les services déconcentrés de l'État et on les fusionne entre eux. Donc qu'on mette plus de présence de services publics, donc plus d'agents au niveau du département, de manière à avoir une meilleure présence auprès de l'usager, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais après, il y a beaucoup de paradoxes. D'abord, est-ce qu'on arrête de supprimer des postes? Est-ce que ce sont des vraies créations ou est-ce que c'est un redéploiement? Et puis deuxièmement, on dit au ministre, si vous voulez mettre plus d'effectifs dans les départements, est-ce que dans le même temps, vous arrêtez ce qu'on appelle la réforme territoriale, c'est-à-dire la volonté de fusionner des directions départementales et régionales qui vont de fait avoir un impact sur la présence physique du service public. Donc beaucoup d'interrogations.
Voilà les interrogations, mais le satisfecit malgré tout de Christian Grolier, secrétaire général de la Fédération Générale des Fonctionnaires FO, avec Olivier Samain. Renforcement des territoires, relance du bâtiment. Notre attention a été attirée aussi par cette ambition formulée hier à l'Assemblée de doter la France dans toutes ses villes d'un plan vélo très ambitieux. Certaines communes s'y étaient déjà lancées. Jeanne Bergaoui, micro en main, est allée pédaler du côté de Beauvais dans l'Oise, une de ces villes où le vélo cherche à s'imposer, parfois avec difficulté.
On essaie de trouver des systèmes novateurs pour pouvoir donner une place plus importante au vélo.
Depuis la fin du confinement, la ville a aménagé 15 km de pistes cyclables supplémentaires, explique Victor de Bilco, conseiller municipal. 15 km de voirie en chaussidoux, un concept qui efface la ligne blanche centrale au profit de deux lignes sur les côtés réservées aux deux roues.
Alors le chaussidoux, c'est un couloir de délimitation, un couloir de sécurité pour le vélo, pour qu'il ait une place où il se sente en sécurité.
Ce chaussidoux, Eric l'emprunte désormais tous les jours avec son vélo, mais il reste en hyper-vigilance.
C'est une première étape, mais c'est des tronçons, il n'y a pas de continuité. Ça, c'est compliqué, c'est plutôt au vélo de faire attention aux voitures. La cohabitation n'est pas toujours facile.
Beaucoup d'automobilistes saluent cette initiative pour les cyclistes, mais avec la disparition de la ligne blanche centrale, Pierre, chauffeur de taxi, reconnaît que c'est parfois plus difficile pour lui de circuler.
Des fois, on ne sait pas trop bien se positionner. Il faudrait faire un peu de pédagogie, je trouve, parce que moi, des fois, je suis un peu perdu.
Si l'État subventionne réellement un plan vélo, la ville prévoit de développer davantage ces pistes cyclables, mais surtout de mettre des vélos et des trottinettes en libre service. Beauvais, Jeanne Bergaoui, Europe 1.
Il est 12h48.
Europe 1.
Allez, restez avec nous, nous allons prendre la direction de Bruxelles parce que la Cour européenne de justice vient de dire que nos données personnelles ne sont pas suffisamment protégées aux États-Unis. Et comme s'il fallait une illustration, le compte, le réseau Twitter a été cette nuit piraté, piratage massif, vous allez le voir.
12h50 sur Europe 1, la suite du journal, François Claus.
La Cour européenne de justice a donc tranché ce matin. Non, nos données personnelles ne sont pas aussi protégées aux États-Unis qu'en Europe. Une décision qui peut s'avérer capitale pour la protection de nos vies privées et qui réjouit les défenseurs de la liberté. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, mais c'est aussi, Isabelle, une défaite pour la Commission européenne qui avait validé cet accord entre l'Europe et le gouvernement américain pour la protection globale des données. C'est invalidé.
Oui, et c'est important pour nous tous, en particulier pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Tout part d'une plainte d'un jeune Autrichien, Max Schrems. Ce militant de la protection de la vie privée a porté plainte contre Facebook. Alors je vous explique pourquoi. En Europe, nous avons la législation la plus protectrice au monde pour les données personnelles. Vous savez, c'est celle qui contraint par exemple les sites internet à nous demander si on autorise les cookies. Mais voilà, Facebook, comme d'autres géants américains du numérique, stocke en fait nos données sur ses serveurs aux États-Unis. Alors Bruxelles avait conclu avec Washington un accord censé nous protéger aussi bien la bas. Mais pour Max Schrems, il y avait un risque que nos données soient aspirées par le FBI ou la NSA, par exemple. Aujourd'hui, la justice européenne lui donne raison. Il va donc falloir que la Commission européenne trouve vite une nouvelle solution. Il y a quelques minutes, elle a promis de travailler pour protéger les Européens, mais aussi pour que les flux de données puissent continuer de part et d'autre de l'Atlantique.
Et les États-Unis, Isabelle Horry, à l'instant même, se déclarent profondément déçus par la décision de la justice européenne. Et si la question de la vulnérabilité des réseaux américains devait se poser, eh bien écoutez ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis. Piratage massif sur le réseau Twitter. Des comptes aussi populaires que ceux de Bill Gates, de Kim Kardashian ou de Joe Biden ont été touchés avec de faux messages et des auteurs Lubna Anaki qui n'ont pas été identifiés.
Il aura fallu 4 heures à Twitter pour reprendre le contrôle de son réseau. Visiblement très bien orchestré, l'opération de piratage a d'abord visé des personnalités influentes dans le domaine des crypto-monnaies. Puis une seconde vague a touché les comptes Twitter de politiciens et de personnalités du monde de la tech. Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk ou encore Jeff Bezos, tous affichaient un message invitant les internautes à transférer des bitcoins à des adresses spécifiques en échange du double des montants transférés. Je redonne à la communauté, si vous envoyez 1 000 $ en crypto-monnaie, je vous renvoie 2 000, pouvait-on notamment lire sur le compte de Joe Biden, avant que le message ne soit rapidement supprimé. À en croire les spécialistes, les pirates auraient ainsi réussi à obtenir plus de 100 000 $. Ce n'est pas la première fois que le réseau social Twitter est la cible d'un piratage. Cette opération suscite de nouvelles questions sur la cybersécurité aux États-Unis à 3 mois et demi de l'élection présidentielle. Washington, Lubna Anaki, Europe 1.
Un peu plus de 40 personnes interpellées dans 3 pays d'Europe, France, Belgique, Italie. Et c'est un vaste réseau de faux-monnayeurs, probablement lié à la mafia italienne, la fameuse Camorra, qui a été démantelée. 8 millions d'euros en fausses monnaies ont été saisis par les enquêteurs et 8 millions en biens. 3 arrestations ont eu lieu en France, en Charente et en région parisienne. Nous vous apporterons plus de précisions dans quelques minutes dans le journal de 13h. On évoquait ici même, il y a 2 jours, le bonheur des amateurs d'art contemporain français, celui de retrouver une œuvre du mystérieux Banksy, ce graffeur anonyme, devenu l'un des artistes contemporains les plus cotés au monde. Cette œuvre qui fut volée au Bataclan avant d'être retrouvée dans une ferme des Abruzzes. Eh bien, les Lodendiens ne vivront pas le même bonheur. L'artiste s'était attaqué au mur du métro de Londres en graffant des œuvres, incitant les voyageurs à porter des masques. Ses dessins ont tout simplement été effacés à jamais par les équipes de nettoyage du métro qui n'avaient pas compris qu'il s'agissait là d'art, Élodie Goulesque.
Un rat en noir et blanc qui éternue un liquide vert fluo sur la vitre du métro et un autre qui descend du plafond avec un masque chirurgical en guise de parachute avec le slogan « Si tu ne portes pas de masque, t'as rien compris ». Pas de doute, Banksy a encore frappé à Londres. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, le pro du graffiti a filmé la réalisation de son œuvre déguisée en agent de nettoyage du métro devant un passager plutôt dubitatif. Inutile cependant de se précipiter dans la rame de métro concernée, puisqu'avant même que l'œuvre ne soit partagée sur les réseaux sociaux, les services de nettoyage ont effacé le graffiti sans savoir qu'il s'agissait d'un Banksy. Pour se justifier, la société Transport for London a expliqué avoir une politique anti-graffiti stricte, mais invite l'artiste à reproduire son œuvre dans un endroit plus approprié. Dans tous les cas, tout le monde ressort gagnant. Banksy a fait le buzz une fois de plus. Les services du métro de Londres prouvent leur sérieux quant au nettoyage des rames en pleine crise du coronavirus. Et Londres, Élodie Goulesque, Europe 1.
Voilà, elle signe, c'est à elle de signer, c'était Élodie Goulesque à Londres. Football, c'était une sage décision prise par le board, cette instance chargée de gérer les lois du jeu, permettre aux équipes en cours de match de procéder à 5 changements au lieu de 3 pour mieux protéger les joueurs lors des reprises de championnat après ces trop longues semaines d'arrêt dues à la pandémie. Eh bien, le board vient d'annoncer que ce qui était un passe-droit temporaire devenait une nouvelle règle jusqu'à la fin de la saison 2021, c'est-à-dire même peut-être pour la phase finale du prochain Euro. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Du service des sports d'Europe 1. Alors on se dit 5 changements au lieu de 3, c'est anodin sur le papier, mais en réalité c'est lourd de conséquences.
Lourd de conséquences. Alors si on est optimiste, pouvoir faire 5 changements au lieu de 3, ça va bien sûr reposer les joueurs, mais ça peut permettre aussi de donner leur chance à plus de joueurs. C'est l'avis de notre consultant Guiraud.
Ça va obliger les clubs à mettre dans leur effectif professionnel des moins de 19 ans, des 19 ans, etc., qui auront des chances de jouer. Alors qu'autrement, c'était plutôt des porteurs de valises que des joueurs. Donc, c'est pas mal.
Mais si on est pessimiste, on peut craindre une sorte de distorsion de concurrence, hein, que certains championnats appliquent la règle et que d'autres non. Et en Coupe d'Europe, par exemple, on pourrait voir des clubs qui ont pris l'habitude de faire 5 changements avec des joueurs plus reposés, affronter des équipes qui sont restées à 3 changements par match toute l'année et dont les joueurs sont plus fatigués. Autre risque, 5 changements. Eh ben, ça peut creuser le fossé entre les équipes les plus fortes, celles qui ont des remplaçants de top niveau mondial, et puis celles qui ont du mal à garnir leur banc, qui ont des remplaçants nettement moins bons que les titulaires. Sachez que la France va en tout cas tester la règle des 5 changements pour les deux prochaines finales de coupe, les 24 et 31 juillet. Rien n'est encore acté, en revanche, pour la saison prochaine.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Il nous reste à voir le temps du jour dans un instant.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
Alors Anissa Haddadi, moi j'aimerais un changement, un seul. Vous mettez les nuages sur le banc et vous faites entrer le soleil.
Eh bien alors il va falloir être encore un petit peu patient. Allez, encore cet après-midi où la journée sera nuageuse. Depuis ce matin, nous avons effectivement une importante couche nuageuse qui recouvre la France. Cet après-midi, sur les frontières du Nord-Est, quelques averses sont encore possibles, notamment sur les Ardennes et le Jura. Et puis des Hauts-de-France, au Massif central, là le ciel est très très gris, des nuages épais. Sur le bassin méditerranéen, le ciel est très dégagé, le soleil brille avec toujours le Mistral et la Tramontane qui soufflent. Alors, ils écartent les nuages, mais ils refroidissent la mer aussi. Sur la façade atlantique, le soleil fera quelques belles percées cet après-midi. Les températures, comptez 20 degrés à Metz et Cherbourg, elles ont baissé hein, les températures. 21 à Lille et Strasbourg, 22 à Clermont-Ferrand, Biarritz et Rouen, 24 à Paris et Bordeaux, 26 à Nice et Lyon cet après-midi, 28 à Perpignan, 30 à Marseille, 32 à Nîmes et Montpellier. Patience, patience, ce week-end sera estival avec des températures qui vont flirter avec les 30 degrés. On revient sur des températures de saison. Et la semaine prochaine aussi, c'est pas mal.
Ah, ça fait 2 jours qu'elle me demande d'être patient. Là. Je ne sais pas si je vais tenir longtemps.
Si, tenez encore. François, allez, tenez.
Merci Anissa. Dans un instant, le journal de 13h avec Marguerite Lefebvre.